ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו, ובן שמעון לוי ויהודה יששכר זבולון ובנימין דן ונפתלי גד ואשר. והיא כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישחצו וירבו ויעצמו ומאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. כפי אימדייתמו, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. Le Sefer porte le nom de Shemot. Donc il fait référence au nom. On commence avec les noms des Béné Israël. En fait, la Megdava fait remarquer qu'on a un problème ici. Et auparavant, avant de regardez la Megdavar, on va d'abord voir ce que Rashi en dit. Rashi dit, Afalpi Shemnaan Bechayen, Hashem a déjà compté les Bnei Israël du vivant, de leur vivant. Donc ça veut dire que Rashi parle des Avot, il parle des Avot à d'Avot Ha'uma, c'est-à-dire des Shvatim. Et en fait, Rashi dit, bien, il les a comptés. Alors pourquoi est-ce qu'il les recompte maintenant? Au sens, pourquoi est-ce qu'on refait la liste? Le Hodia Chibatan, il s'agit de faire connaître combien ils sont précieux, combien Hashem les aime. Shenim Shelou la Kochavim. Et alors Rashi donne un complément de compréhension, en fait. Ils sont comparés à des étoiles. Chez Motsian ou Machnissan, Bemispar ou Bishmotam. Ils sont comparés à des étoiles qu'Hachem fait sortir et faire disparaître. Et le Passouk dit que Hachem les connaît, il connaît leur nombre, le nombre des étoiles et le nom des étoiles. Et c'est le pasouk que cite Rashi, Shenemar, Hamotzi, Bemispar, Tzvaam, le Choulam, Beshem, Ikare. Ça veut dire que Hashem fait sortir les étoiles, toutes les armées, sont comparées à des armées, il connaît le nombre, et il y a un nom, il nomme chacune d'entre ces étoiles. Et donc ici, pour expliquer pourquoi il les nomme, semble-t-il, curieusement, Rashi est allé chercher un exemple. Il nomme les étoiles quand il les fait entrer et sortir sur la scène, en fait, sur la nuit, quoi. Entrer et sortir les étoiles, il y a un moment où on les voit, un moment où on les voit pas, en disant, en tout cas, nous, pour nous, à vue d'œil. Les Kochavim, en fait, il y a des étoiles, mais en réalité, comparer les fils de Yaakov à des étoiles, c'est en fait les comparer plutôt à des planètes. Il y aurait donc, on ferait référence à 12 planètes. Bechol mazal yesh millionnei kochavim. Donc, en fait, ce qu'il appelle des planètes, c'est des systèmes, en fait. Et dans chaque système, dans chaque galaxie, ou encore plus grand, il y a des millions, des milliards d'étoiles. Vekar kol shevet ou klal shekolel ito arbe pratim. Donc le Rav Volbe, il va lire dans le Rashi en question que cette comparaison, elle vient dire qu'on mentionne Rouven, etc., mais en fait, chacun est le nom d'une tribu. Cette tribu, elle va avoir, dans l'histoire, elle va avoir des millions de gens qui sont issus de cette tribu-là. C'est ça la comparaison. Alors il dit, le fait de compter si fréquemment le clan Israël, c'est vu comme quelque chose, une marque d'amour. En fait, ce décompte des Bnei Israël, il est différent des décomptes que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait le décompte de la population, le décompte des armées, etc. On fait un décompte des électeurs, des gens qui ont voté, des gens qui n'ont pas voté, etc. Ici, dans ce cas-là, dans ces décomptes, on compte les voix, en quelque sorte. On ne s'occupe pas de savoir qui a mis dans l'urne ce bulletin-là. On va compter les bulletins. Par conséquent, cette forme-là de décompte, elle enlève toute la personnalité de celui qui est décompté. Il est un numéro, quoi. Il porte un numéro. On voit bien que quand on a voulu faire perdre leur identité aux gens, quand les nazis vont nous faire perdre, ils leur ont affecté des numéros. C'est plus qu'un numéro. Que le porteur de ce numéro soit un professeur ou un analphabète qui comprend rien à rien, simplement on lui a dit de déposer ce bulletin dans l'urne, ben, il l'a déposé. Ben, il compte autant l'un que l'autre. Ici, le décompte, Sagrashi veut dire, ils sont comparés à Kochavim, comparé aux étoiles. Et pourquoi il en passe par là? Parce qu'il y a ce verset qui dit qu'Hachem, effectivement, s'occupe de chaque étoile. Bien qu'il y en ait des millions, Hachem s'occupe de chacune d'entre elles. Ça donne un nom.
Mais là, Zébulon, ce n'est pas la même chose que Benyami ou que...
Bien sûr que non, mais seulement le problème, c'est on les compte, on va faire un décompte finalement, et ce qui veut dire justement que cette liste-là n'est pas une liste qui sert simplement à compter combien il y a 12 tribus, donc voilà, on est arrivé à 12. Effectivement, d'abord, comme vous dites vous-même, on mentionne effectivement chacun, donc comme toutes les étoiles, elles sont mentionnées, on dirait dans notre langage, on va dire dans quelle galaxie elles se trouvent, etc. Le nom de l'étoile et dans quelle galaxie elle est. Ici aussi, on va donner le nom de tous les Bnei Israël, on va dire dans quelle galaxie ils se trouvent, à quelle tribu ils appartiennent. L'opération de décompter les gens, c'est une opération très dangereuse. On a déjà parlé de cela. Ça enlève a priori la personnalité des gens. Le nom, c'est quelque chose qui met l'accent sur, disons, la spécificité de cet individu-là. Le fait qu'on les compte, c'est au contraire leur enlever cette spécificité. Donc il y aura ici deux choses, on les compte et on les nomme. Et effectivement, on nous dit que tous les descendants de Yaakov qui sont descendus en Égypte, plus Yosef qui y était déjà, ça fait 70 personnes. Alors Rashi fait remarquer que quand on dit Yosef aya be Mitzrayim, Yosef on l'a déjà compté. Il est dans les 70. Pourquoi on le compte après Ben Yosef aya be Mitzrayim? Alors là aussi Rashi dit Ubanav ayu bichlal shivim. Il faisait partie, lui et ses enfants sont dans les 70. Alors qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Est-ce qu'on ne sait pas qu'il était en Égypte? On vient de passer plusieurs parchiotes à ne parler que de ça. Et là, l'odiacha tzidkato shel Yosef. Où Yosef a roé et tzonaviv, où Yosef shaya bemitzraim venase melech veomed betzidko. Ce verset qui est a priori superflu, il vient dire que Yosef est en quelque sorte de plein pied dans ce décompte des 70, parce qu'il n'a pas changé. Il est vraiment le Yosef qui faisait paître les troupeaux de son père. C'est le même Yosef qui est devenu roi en Égypte et qui s'est pas assimilé, qui en fait n'a pas changé. Cette chose-là, cet accent mis sur le fait que bien que plongé dans un milieu hostile, dans un milieu qui voulait l'assimiler, cette remarque-là, elle sera refaite une deuxième fois avec Moshe et Aaron, où on dira « Hem betzidkatam mitrila ve'atsof ». On sait plus loin dans le chapitre 6 de Sefer Shemot, mais il y aura cette même remarque, en fait. Ici, on a donc une nouvelle définition de la tzidkout. Qu'est-ce que c'est qu'un tzadik? Chez nous, un tzadik, c'est quelqu'un quelqu'un qui s'habille et qui se conduit comme un tzadik. Ben, c'est un tzadik. Mais Rashi dit que le tzaddik, c'est quelqu'un qui subit des révolutions dans sa vie, et néanmoins il reste tzaddik. Au début, Yosef était berger. Et tout à coup, il se trouve seul, coupé de sa famille, en Égypte. Il est Eved, il est un homme libre, il se retrouve esclave. Et ensuite, Melech, ensuite il se trouve roi. Et Omed Betzidko, il est toujours le même tzadik. C'est-à-dire, il a changé de statut. Il a changé complètement de statut, probablement qu'il est habillé différemment, parce qu'évidemment, comme prince d'Égypte, il était certainement habillé en prince d'Égypte. Il n'avait pas de Streimel ni de djellaba, etc. Il avait des vêtements royaux. Alors, il avait des vêtements royaux. Auparavant, il avait probablement des vêtements. Je ne sais pas si c'était déjà comme ça. Est-ce que quand il était esclave, il portait les couleurs de son maître, les esclaves portaient les couleurs de leur maître, pour qu'on sache qu'ils appartenaient à tel ou tel maître. Il restait toujours dans la même tzitkout. Pour arriver à ce niveau-là, il faut un gros travail.
C'est pas pour être quelqu'un, parce qu'extérieurement, c'est difficile d'imaginer qu'il pouvait échapper au...
Non, je vous ai dit, il était sûrement habillé comme un prince égyptien.
Pas seulement habillé, mais je suppose égyptien étant idolâtre, c'est difficile.
Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'est pas devenu idolâtre.
Est-ce qu'il a joué le double jeu comme des marins? C'est difficile.
Non, mais il n'était pas... Il était un prince, probablement, je ne sais pas quel double jeu il fallait jouer. La princesse elle-même, elle ne jouait pas le jeu de son père. La princesse, elle était de ceux qui avaient soutenu le pharaon précédent. On dit que c'est Akhenaton, qu'elle était encore des adeptes du pharaon précédent, avec lequel celui-ci a rompu, mais elle n'était pas d'accord avec son père. Donc c'est très possible qu'en tant que fille, que de fils de sa mère, quoi, peut-être qu'il avait le droit de pratiquer un culte différent. Il était le prince, probablement, qui pouvait faire cette manière, de cette façon-là, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et puis pour le reste, alors il était un ours, donc il n'a jamais adhéré à cela. Je ne sais pas ce qu'il a dû faire. Je ne connais pas le texte qui parle de ça. Oui, alors Esther, bon, c'est vrai qu'a priori, d'Esther, on nous dit jamais qu'elle ait participé au culte idolâtre de son mari. Bon, là-bas, c'était une chose, probablement que les femmes étaient sur ce plan-là quand c'était négligeable. Par conséquent, elles n'avaient pas besoin de leur présence en Perse. Mais lui, il était... prince héritier, imaginez, le prince héritier de même aujourd'hui d'Angleterre, il est le fils de sa mère qui est le principal personnage de l'église anglicane. Donc, il doit aller à des cérémonies très certainement de l'église anglicane, et même s'il n'en a rien à faire, il doit probablement faire acte de présence. Alors, est-ce que lui aussi devait faire acte de présence? J'ai aucune idée. Je crois qu'on ne sait pas du tout comment ces gens-là vivaient. Comme il y avait beaucoup d'idoles, on n'était peut-être pas du tout obligé d'être en même temps que celui-ci auprès de telle et telle idole. On pouvait toujours dire, mais moi j'étais dans l'autre église, là. J'étais pas là aujourd'hui, ici, parce que j'étais ailleurs. C'est comme les gens qui ont plusieurs synagogues. C'est là, t'as pas vu la synagogue? Mais j'étais à l'autre synagogue, là-bas. Oui, mais moi aussi, j'étais là-bas. D'accord. C'est... Pardon ? C'est ce que j'ai expliqué avant, que la fille de Paro, elle n'était pas de la même obédience que son père. Le Rav Olé raconte qu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, il a dû quitter la Yeshiva de Mir, parce que comme il avait un passeport allemand, il a été expulsé, et donc il est allé en Suède. C'était dans cette, comme il dit, Bekoshi Minyan Shel Shomrei Shabbat. Il y avait, dans toute la Suède, il y avait difficilement un minyan de gens qui tenaient Shabbat. Ben Torah, il n'y en avait pas, évidemment. Et donc j'ai dû vivre là-bas 8 ans. Alors il dit, je ne sais pas combien je me suis abîmé là-bas, qui sait. Mais en tout cas, je comprends un peu cette situation-là. Comment il est possible que l'homme se retrouve dans des situations complètement différentes de celles auxquelles il était habitué. Et il faut qu'il tienne le coup. Et donc il faut toujours être prêt, c'est la caractéristique du juif, il doit être prêt, comme on dit, il faut avoir son passeport, etc. Mais il ne faut pas seulement avoir son passeport. Il faut aussi être prêt à résister, à savoir que je ne sais pas dans quelle situation je pourrais être, mais savoir qu'il va falloir résister. Les gens pensent très souvent que, bon, ils vont rester toujours dans le même environnement, ils ne seront pas exposés à des changements radicaux. On ne peut pas savoir. Il y a eu toute une yeshiva qui s'est retrouvée à Shanghai, occupée par les Japonais à ce moment-là et tout. C'était des endroits paumés aussi. On ne sait pas, est-ce qu'à ce moment-là, on arrivera toujours à tenir le coup. On ne va pas toujours rester à Mir ou à Likoud ou à Yerushalayim. Il y a un chazal, mais je n'arrive pas vraiment à le mettre en situation. Il y a un chazal qui dit que quand Yaakov a quitté sa maison pour aller chez Laban, il a passé ses fameux 14 ans dans la yeshiva de Shem Ever. Et la question, c'est qu'est-ce qu'ils lui ont appris là-bas? Qu'est-ce qu'ils lui ont appris que Yitzhak ne pouvait pas lui apprendre? Quand on a un père comme Yitzhak, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller étudier chez Shem Ever? Alors, une des réponses, la seule réponse que je comprenne bien, c'est que dans cette yeshiva, on lui a appris comment on vit dans le galout. Comment on vit quand on n'est pas dans un milieu porteur. Et c'était une nécessité pour lui, puisqu'il allait aller chez Laban, où il sera véritablement dans un milieu non seulement qui ne sera pas porteur, mais un milieu qui sera hostile. Et c'est probablement pour ça qu'il a réussi à résister. Alors il y a un enseignement que j'ai vu, mais celui que j'ai vu, je vous dirai pourquoi il est un peu difficile à placer ici, c'est un enseignement qui dit que cet enseignement-là qu'il a reçu chez Shem et Ever, Yaakov ne l'a transmis qu'à Yosef. À tous ses fils, il leur a tout enseigné, la Torah évidemment, comme il l'a enseigné à Yosef. Ce qu'il a enseigné le plus à Yosef, c'est justement cette Torah qu'il a apprise chez Shem et Ever. Parce que Yosef, c'est le galout, quoi. C'est celui qui est le maître en galout. Donc il fallait lui donner cet enseignement ad hoc. Alors c'est super. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Je vous dis pourquoi j'ai de la difficulté à le mettre ici. C'est que cet enseignement qui dit que ce sont ces choses-là que Yaakov a donné à Yosef, je l'ai vu comme une explication de ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est marqué que au moment où Yaakov allait disparaître, Yosef, il a embrassé son père. Donc il était face à face avec lui, il a embrassé son père. Alors le Hamek Davar, il dit qu'en réalité, bon, il y a tout ce problème, est-ce qu'on a le droit d'embrasser un mort ou pas, enfin, a priori on n'embrasse pas les morts. Et alors lui, il voulait dire que c'est pas du tout que Yaakov était mort à ce moment-là. Il était en train de mourir et il était en train de dire les dernières choses qu'il voulait dire à Yaakov, et Yaakov, à Yosef, Et Yosef était quasiment couché sur lui pour entendre ce que Yaakov avait tout juste la force de murmurer. Et Amekdavar dit que c'est cet enseignement qu'il lui a transmis. Il lui a donné cet enseignement-là. Je m'en sais un peu tard. Si c'est comme ça, hein, alors c'est pour ça que est-ce qu'il lui a donné un complément dans ce domaine-là et qu'il lui avait donné l'essentiel de cet enseignement, mais qu'il n'avait pas eu le temps de finir de lui donner puisque bon, ils ont été séparés longtemps et que dans les 17 ans où Yaakov était en Égypte, il n'a peut-être pas trouvé de moment où il était suffisamment seul avec Yosef pour lui parler de tout ça, puisque Yosef était à ce moment-là roi d'Égypte, quoi, vice-roi d'Égypte. Alors peut-être c'est simplement un complément qu'il lui a donné. À ce moment-là, on pourrait dire qu'effectivement, c'est ça que Yaakov a donné à Yosef. Déjà, en plus, Ben Zekounim, il était l'enfant qui était tout le temps auprès de lui et auquel il a donné un enseignement qu'il n'a pas donné aux autres. On ne peut pas dire qu'il n'a pas donné la Torah aux autres. Par contre, si on dit qu'il ne leur a pas donné d'enseignement nécessaire pour le Galout, puisque c'est Yosef qui représente celui qui va diriger le clan d'Israël, sortir le clan d'Israël du Galout, d'une certaine façon, et, bon, c'est normal que ce soit à lui que Yaakov l'ait communiqué. Bon, alors, modulo ce problème-là, enfin, cette histoire de timing, en fait, on peut essayer de résoudre, comme je viens de le dire. Voilà les choses telles que je les comprends. Voilà, donc, voilà, alors c'est étonnant quand même que le livre tout entier s'appelle Shemot, alors que c'est quoi? Il y a une petite liste ici de noms. Et le livre s'appelle Shemot. En quoi est-ce que ce nom du livre, du Sefer Shemot, en quoi est-ce qu'il représente? On peut dire qu'il, dans Bereshit, c'est fondamental, c'est un Bereshit à tous les sens du terme. Et quand on va parler de Bamidbar, ils ont toute la période dans, donc chacun des livres, et Vaikra, c'est la relation de l'enseignement que spécifique Hachem a donné au Bnei Israël à travers Moshe, on y arrive, mais Shemot ici c'est un peu étonnant comme nom de tout le Sefer. Bon, si on dit que c'est pas important, le nom de Shemot, il est pas, c'est marqué nulle part que ça doit s'appeler Shemot, il y en a d'autres, il y a d'autres noms de ce livre, des Rishonim qui l'appelaient différemment. Pardon, et Mais peut-être quand même que si, comme on l'a dit précédemment, les Shemot, c'est dire la spécificité, c'est dire la richesse, alors au fond, c'est ça qu'il faut entendre ici, que voilà, tout ce qu'on va dire par la suite, c'est constitutif des noms des Bnei Israël. Alors, évidemment, ceux qui viennent, là, qui sont descendus en Égypte, ils sont descendus, c'est la famille du roi, donc, ils sont entrés en Égypte, et ils étaient tout de suite favorisés, en fait. D'accord, c'est extraordinaire. Ils viennent ici, maintenant, on touche ici quand même un petit problème. C'est, voilà, ils ont quitté Eretz Kenaan à cause de la famine. Eretz Kenaan, c'est quand même le pays qui a été donné au Avot. C'est quand même un pays tout à fait extraordinaire. Comment se fait-il qu'ils le quittent pour des raisons de famine, à la limite, le système qui avait marché jusqu'alors, il pouvait marcher, non? Pourquoi est-ce que les frères ne pouvaient pas faire la navette entre l'Égypte et Eretz Kenaan, aller acheter du blé, enfin acheter ce qu'il fallait acheter, le remonter en Eretz Kenaan, on continue de vivre en Eretz Kenaan, et, comme on dit, comme disent les Américains, et les frères, là, ils vont commuter, comme on dit, entre Eretz Kenaan et l'Égypte, Et ils vont remonter du blé. Ce qui a marché là jusqu'à présent, pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi quitter Eretz Kenan pour aller en Égypte? Pourquoi? Pour des raisons de famine. Pourquoi ils descendent en Égypte? Alors il y a Hazal qui dit que Yaakov Avinu ne voulait pas du tout descendre. Mais Hachem lui a dit, tu as le choix. Tu vas peut-être descendre avec des chaînes aux pieds, ou bien tu peux descendre libre. Ça veut dire, le passage par l'Égypte est un passage obligé. Pourquoi il est obligé, ce passage? Alors, on peut dire, le passage en question, bon, ce n'était pas déterminé que c'était pour l'Égypte, mais vous savez bien que le passage par un pays où ils sont étrangers, esclaves et tout ce qu'on veut, c'est ce qui a été annoncé à Abraham Avinu. Donc, quand Hachem a fait son alliance avec Abraham Avinu, il lui a dit, « Guerrier Zaracha, Beretz Lolaem, ta descendance, ils seront étrangers, vi'inu otam, mais on va les faire souffrir. » Et ce qui se passe là, dans cette descente en Égypte, c'est le commencement de la réalisation de la promesse. Alors je vous ai dit que ça, dans ce qui a été annoncé avant Avinu, ce n'était pas nécessairement en Égypte. Enfin, l'Égypte était la puissance dominante, mais c'était aussi l'endroit le plus pourri du monde. On aurait pu imaginer que les Bnei Israël soient en exil, un exil un petit peu difficile, mais dans un endroit qui ne soit pas aussi pourri. C'était vraiment l'endroit le plus dégradé du point de vue moral, etc., et probablement au nom de la civilisation. Bon, c'était, c'est l'Allemagne de Weimar qu'on entend. C'était le summum de la civilisation, et en fait complètement pourri, et tout ce qu'on veut. Les anticorps, ils auraient pu être, puisqu'Hachem n'a pas dit que ça serait en Égypte, les anticorps, ils auraient pu les acquérir. Qu'est-ce qu'il fallait comme anticorps? Il fallait les anticorps que allait leur donner le statut de ne pas être chez soi, Geri Yezaracha, Be'eretz Lolaem, dans un pays qui n'est pas le leur, parce qu'on peut être étranger chez soi, d'une certaine manière, d'une part. Et ensuite, Ve'inu Otam, on va les faire souffrir, mais enfin, les mots Inu, c'est pas de la torture. D'accord? C'est les Inu de Yom Kippourim. Inu de Yom Kippour, il y a 5 Inu de Yom Kippour. On mange pas, on boit pas, c'est 15 jours. Et bon, on va se laver, etc. C'est des restrictions qui sont, c'est supportable, hein. On n'est pas en train de vous brûler vous arracher les ongles des, etc. Je vais pas vous raconter. Alors, on connaît deux réponses. Il y a une réponse qui est pourquoi est-ce que c'est en Égypte finalement? C'est le Ramban. Quand le Ramban accuse Abraham Avinu d'être descendu en Égypte, il dit ben, c'est toi qui auras décidé. Puisque toi, pour des raisons de famine, tu descends en Égypte, tes descendants, pour des raisons de famine, ils vont aussi descendre en Égypte. C'est une réponse. Et l'autre réponse, c'est que c'est en Égypte parce que c'est là que se trouve Yosef suite à la dispute entre Yehuda et Yosef. C'est-à-dire, voilà, c'est leur guerre, enfin leur la guerre intestine, si on veut, la guerre, espèce de guerre civile entre Yehuda et Yosef, qui les a amenés là-bas. Et d'autres raisons. Ce qui est intéressant, c'est que ce mot de Mitzrayim, qui porte en lui la racine tsar, tsadik reish, qui veut dire étroit. Bon, c'est le nom de l'Égypte parce que l'Égypte, c'est étroit. L'Égypte, en tout et pour tout, c'est la vallée du Nil. À part à gauche, à droite, vous avez, à part les pyramides, vous avez du sable. Donc, quand tu regardes une carte, tu vois très bien que l'Égypte, c'est un pays très tsar, très étroit. D'un autre côté, s'il s'agit d'un endroit dont il va falloir sortir, et cette sortie du clan Israël, c'est comme un accouchement, eh bien, l'Égypte a la structure, si vous voulez, d'un canal étroit par lequel il aura fallu passer, et dont il n'est pas facile de sortir. D'accord, quelque part, mais il va falloir sortir, visiblement, ça fait mal de sortir. Ça va faire mal parce que, en théorie, on a 4/5 du peuple qui ne sortira pas. Bon, après, je vous ai expliqué d'autres façons de voir les choses, mais 4/5 en tout cas ne veut pas sortir. Donc ça veut dire que, bon, on ne sort pas facilement. Donc il y a en Égypte, en Mitzrayim, justement, de quoi à la fois faire le travail qui a été annoncé à Abraham Avinu, et cette idée d'une espèce d'accouchement d'Ebné Israël, l'Égypte étant, de ce point de vue-là, la mère du clan Israël. Peut-être. Peut-être, mais je ne sais, ça ne me vient pas ici. Je l'entends. Vous avez probablement raison si ça vous rappelle quelque chose, mais je connais ça. Sur le moment, ça ne me dit rien.
L'autre versant d'Israël, quoi.
Oui, mais je ne vois pas. Oui, c'est l'Égypte, c'est ce que je vous dis, c'est la mer.
D'un autre côté, chez nous, c'est la mer qui donne la spécificité de l'Israël. Nous, on peut accoucher de quelque chose qu'on va rejeter.
Et peut-être c'est un accouchement où il faut couper avec la mer. Pour exister de toute manière, il faut couper le cordon ombilical. Et si le clan Israël est considéré comme un mâle, il faut couper deux fois le cordon ombilical. On a déjà vu. Donc c'est possible qu'effectivement il faille.
Puisque en parallèle, on dit que le Ben Israël est une Ben Israël par sa mère.
Non, il n'est pas du tout par sa mère. Il est par sa mère seulement, j'ai déjà expliqué 20 fois, qu'il n'est Ben Israël par sa mère que dans un mariage interdit par la Torah. Il n'y a peut-être pas de mariage, mais s'il y a un mariage ici, c'est pas un mariage interdit par la Torah. Il n'y a pas de mariage, il est accouché. Bon, c'est pas que l'Égypte est vierge, mais...
Alors, Abraham, on lui a dit l'Erfera, et ici aussi, c'est qu'il rejette. Il sort de la mer, vous avez profité de ce coup pour se faire, et puis après il rejette. Il est aussi pour être comme Abraham. Mais Abraham est parti, l'Erfera est parti pour lui, donc il a quitté.
Oui, bien sûr.
Il a quitté, il s'est séparé. Et là, je dis, c'est même une double séparation. Il s'est servi du concours de l'Égypte, et ensuite, tu vois une similitude, peut-être, non. Là aussi, il y a ce même. Je me sers de quelque
chose. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont données d'une certaine manière par l'Égypte. D'abord, premièrement, Moshe Rabbeinu, qui est élevé comme un prince égyptien. Bon, c'est pas rien. Ouais. Deuxièmement, si on les regarde un peu plus près, la mère de Moshe Rabbeinu, Yocheved, elle est née dans les murailles. Donc Elle ne fait pas partie de ceux qui sont descendus de Canaan. Elle a déjà quelque chose de l'Égypte en elle. D'accord ? Elle est née dans les murailles. Et donc, elle a quelque chose de l'Égypte, mais encore une trace de... Amram, lui, c'est un entièrement égyptien. Amram, c'est le neveu de Yocheved. Il a épousé sa tante. Donc lui, il est une génération. Lui, il est un petit-fils de Lévi. Elle, elle est une fille de Lévi. Donc il y a une génération de décalage entre eux. Donc c'est un monde très très spécial, si vous voulez, d'une... Macron, c'est rien, quoi.
Et ça fait penser aussi, quand vous dites que le Mashiach descend, qu'on descend d'une puterie, qu'on descend... C'est comme si, souvent, vous dites que... Il faut qu'il y ait de la nourriture, quoi, pour sortir. Excusez-moi, je dis avec mes mots qui sont moins politiques.
Là-bas, c'est pas tellement pour sortir, c'est pour qu'il n'attrape pas la grosse tête. C'est Rav Dessler qui dit que
oui.
C'est le fameux coup à Shel Shvatim. Et justement, si vous voulez, donc il y a cette mixte, quelque part, on prend des choses de l'Égypte. N'est-ce pas? On va sortir avec un butin égyptien. D'accord? Ça veut dire qu'on va construire le Mishkan avec le butin de l'Égypte. Mais c'est construit par nous. En opposition à ce qui va se faire au temps de Shlomo HaMelech, qui lui va construire le temple avec des choses qui sont à lui. En principe, il y a tout un problème parce que David HaMelech, il avait déjà réuni tous les matériaux nécessaires pour construire. Donc il y a toute une ambiguïté avec ça. Mais le problème de Shlomo HaMelech, si vous voulez, quelque chose qui, d'une certaine façon, invalide le Beit HaMikdash, c'est qu'il est allé chercher les artisans chez les goyim. Il est allé chercher les artisans chez les idolâtres, qui étaient probablement des idolâtres aussi. Donc faire construire le Beit HaMikdash par des idolâtres, c'est une idée que j'ai, moi, quant à moi, beaucoup de mal à comprendre. Et c'est pour ça que on peut dire, le Beit HaMikdash, il a été construit et détruit. Le Mishkan, qui a été l'œuvre des Bnei Israël, n'a jamais été détruit. Il a disparu, quoi. On l'a enfoui, etc. Mais lui, le Mishkan était le fruit du travail d'artisan. On ne sait pas comment où ils auraient appris. Bon, ça, c'est la fameuse question que tout le monde pose. Comment se fait-il que des gens qui finalement, au mieux, ont fabriqué des briques, d'accord, comment est-ce que tout à coup, et les femmes, elles ont puisé de l'eau avec des petits poissons, ou bien alors on leur a fait faire un travail d'homme, et tout à coup elles sont capables de faire des broderies, de faire du tissage, de faire du tressage, etc., de façon absolument incroyable, d'accord. Bon, ça s'est fait, bon, Hachem a aidé, donc... Mais ça vient entièrement de chez nous. Et c'est cette idée de fabriquer le temple sous forme. C'est pour ça qu'il est devenu le temple, j'ai l'impression. Pourquoi il est devenu un temple? Parce que ceux qui l'ont construit étaient des gens pour lesquels ils étaient des gens qui pensaient qu'ils construisaient un temple. Ils n'ont pas compris. Shlomo HaMelech a pensé probablement qu'il pouvait le faire, qu'il allait maîtriser tout ça. Alors, ils ont essayé de le rouler complètement, mais ça, il ne s'est pas laissé rouler. Mais, curieusement, il a fait appel. Il est allé chercher les meilleurs, on peut dire les meilleurs. Mais est-ce qu'il vaut mieux les meilleurs, ou est-ce qu'il vaut mieux que ce soit des gens de chez nous avec des cavanotes, en tout cas non idolâtres, oui. Voilà. Et bon, là, il fallait qu'on c'est miraculeux, n'est-ce pas? On peut dire que Shlomo HaMelech, il n'a pas voulu se compter sur des miracles. Il a pris des gens qui avaient fait leur preuve. Mais bon, des gens de chez Hiram, Dans l'idée, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est une idée comme ça, mais c'est un, moi, ça me dérange énormément. Je n'arrive même pas à comprendre. À la vérité, je ne comprends pas ça.
Dans la mission, vous avez le Mishkan avant, peut-être que son mot avait l'air
oui, il fallait, on voit très bien que le cœur joue un rôle fondamental dans tout ce qui touche la construction du Mishkan. Il faut une divlève, etc., tout ce qu'on veut. Il faut que le cœur y soit. Comment imaginer qu'on puisse construire la résidence d'Hachem en faisant appel à des idolâtres? On ne va pas faire le cours là-dessus parce que je ne sais rien dire. Je suis seulement très, très étonné. Oui, non, mais il était sûrement beaucoup plus intelligent que moi. Il avait sûrement une idée de ce qu'il fallait faire. Mais de facto, on voit que ça n'a pas marché.
Vous avez dit que pour construire, il faut mettre du cœur. Et le cœur, peut-être que c'était une façon aussi de faire faire tchouva aussi aux idolâtres.
Pas du tout, ils n'ont rien du tout. Mais ils n'ont pas fait du tout tchouva.
En s'approchant du temple, en construisant quelque chose qui est pour le Dieu des Juifs, il y a quelque chose qui est passé peut-être en eux.
Oui, avec un échange. Et quelque chose d'eux est passé là-dedans.
C'est ça. Mais Choro, c'est un sage, certes, je ne sais pas s'il faut. On discute un peu comme ça. Il a aussi présumé de ses forces, parce qu'en ayant toutes ses femmes à Vodafone.
Oui, mais ça, si vous voulez, ça, on peut le dire, si on peut, parce que Frazan nous le dise. Mais je ne connais pas de texte qui dise clairement que le Beth Amikdash a foiré parce que lui, mais il y a peut-être un texte comme ça, je ne le connais pas. Est-ce que tu lis Rachel, ça existe?
Peut-être que Shlomo Améler n'avait pas les mêmes un architecte comme le fallait.
Est-ce qu'il a, il fallait prier Hachem?
C'est ça, mais peut-être que
non, non, mais je ne suis pas.
Personne ne serait à la hauteur.
Oui, mais bien sûr que vous n'avez pas besoin de vous transformer en avocat. C'est sûr que Shlomo HaMelech avait d'excellentes raisons de faire ce qu'il a fait. Seulement, je ne comprends pas comment les raisons, elles sont toutes excellentes. Comme vous dites, on avait les meilleurs, etc. Mais de facto, c'est les idolâtres. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on... Oui, non, mais encore, nous sommes d'accord, Claire. C'est sûr qu'il a pensé quelque chose de ce que vous êtes en train de dire, mais et c'est sûrement plus intelligent que ce que je... C'est juste que moi, je ne comprends pas comment c'est possible. C'est tout. Je dis seulement, comme c'est moi qui donne le cours, alors je vous dis ce que je ne comprends pas, quoi. Donc, il vient ce Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Asher lo yada et Yosef. Alors vous connaissez Yann Machloket entre Av et Shmuel, entre deux Amoraïm. L'un dit qu'il était Hadash Mamash, c'était un nouveau roi, disons une nouvelle dynastie. Et Hadamar, Shinitrachou de Xerotav, que bon, il y a eu une révolution dans ses décrets, il a changé d'avis. Asher lo yada, il ne connaissait pas Yosef. Alors c'est curieux, comment on peut imaginer, même s'il est d'une autre dynastie, cette autre dynastie, elle a pris le pouvoir sur la précédente. Ils ont dû faire la guerre, ou, etc. Et on a changé de... Probablement qu'on a mis... Ils ont décidé d'une autre capitale, etc. Ça s'est fait beaucoup entre Memphis et Thèbes, etc. en Égypte. Ok, mais comment est-ce possible d'avoir oublié que l'Égypte a été pendant 7 ans dans une période de famine et qu'elle n'a été sauvée que parce que quelqu'un avait, il y avait des silos, ils étaient là, et il y avait encore les lois du cinquième, combien est-ce que les gens devaient fournir, combien est-ce qu'on leur donnait de grains pour semer, et sous quelles conditions, qu'est-ce qu'ils devaient produire, combien ils devaient en donner à l'État. Ils prenaient 20% l'État. Ils pouvaient garder 4/5, et 1/5 devait être donné à l'État. Donc ça, c'était sûrement dans la loi. Donc c'était écrit. Donc ça veut dire qu'ils ne savaient pas. Comment est-ce possible? Même si, effectivement, ils l'ont déchiré, mais avant de le déchirer, ils ont bien dû le lire. Alors Rachid dit, « Asa atzmo ki ilu lo yada. » Il a fait comme s'il ne savait pas. Et ça, alors, est-ce que ça va d'après les deux opinions? C'était un nouveau roi, une nouvelle dynastie, ou bien c'est le même et il a changé ses xérotes? Si c'est le même, il a changé ses xérotes, alors on comprend, hein, il n'a pas voulu savoir. Et autrement, alors peut-être on peut dire, même d'après l'autre opinion, c'est aussi difficile de penser qu'il ne savait vraiment pas. Amek Davar, il dit une drôle de chose, il dit Asher lo yada et Yosef. La date, connaître, c'est aussi un mot qui veut dire aimer. D'accord, puisqu'on utilise même. Alors, lui il dit j'ai tendance à vouloir l'expliquer comme ça. Et ce qu'il voudrait dire, qu'il n'était pas comme le premier paro, le paro précédent, qui aimait Yosef, à cause de sa sagesse et du bien qu'il lui a fait, et il lui a permis quand même de survivre, et puis il l'a placé au-dessus du Nil et tout ce qu'on veut. Mais ce paro-là, il avait d'autres idées, un peu ce que vous dites ici. Achelo irzik lo tova velo ahav et Yosef. Il n'était absolument pas reconnaissant. Il ne voulait pas lui devoir, donc voilà, il ne l'aimait pas. Bon, et comme quelqu'un qui n'aimerait pas celui qui a fait du bien, quelque part, on n'a pas envie d'être redevable. Le problème de la reconnaissance, c'est tout un grand problème. Donc il ne voulait pas. Alors il va à Nisrak Malo. Alors, Rachidi, il a dit, avant Nitrak Malo, voyons, soyons plus intelligents, plus chacham que lui. Et Rashi nous dit que Hava Nitrak Malo, Hava, tout le monde connaissait Hava Nagila, oui. Mais là aussi, c'est comme ça. Rashi dit que chaque fois que c'est marqué Hava, ça veut dire préparez-vous. Préparez-vous à cela. Préparez-vous à être plus intelligent que lui. Nitrak Malo, la âme. Il faut qu'on trouve une solution pour venir à bout de ce peuple. Verabotenu darshu nitrakem le moshiyan shel Israël. Les Chachamim ont dit il faut qu'on soit plus intelligent que le sauveur d'Israël. C'est-à-dire, il faut que nous le jugions, c'est-à-dire que nous le condamnions, que nous essayons de le faire disparaître par l'eau. Shekvar nishba shelo yavim abol leolam. Parce qu'il dit, Hachem a déjà promis qu'il n'enverra plus de Maboul dans le monde. Donc, ce mal que nous allons faire avec l'eau, comme Hachem, quand il punit Mida Keneged Mida, et que cette Mida Keneged Mida, il ne pourra pas l'appliquer, puisqu'il a déjà promis qu'il n'enverra pas de déluge. Donc, faisons cela par l'eau, et nous serons sûrs de ne pas devoir, on ne devra jamais payer. Puisque Hachem, pour nous faire payer, il devrait nous envoyer le déluge, et il ne peut plus. Pen Yirbe, de peur qu'ils deviennent encore plus nombreux, parce qu'il a déjà dit, Am Bene Israël, vous voyez, dans le verset tête, il a dit à son peuple, ce roi, Hine, voici, Am Bene Israël, c'est la première fois qu'on traite le peuple d'Israël de peuple, on traite les Bene Israël de Am, Am Bene Israël. Il anticipe ici, les Bnei Israël ne deviendront un peuple qu'au pied du Sinaï. Mais lui, il les voit déjà, au peuple, il faut qu'il les vende comme un peuple déjà, c'est un état dans l'état. Rav, ils sont nombreux. Ve'atsum, ils sont plus puissants, mimenu, que nous. Alors, c'est quand même énorme. Plus nombreux et plus puissants que nous. Nous, les autochtones, nous, les Égyptiens de souche. D'accord, nous, les vrais de vrais. Alors, ces étrangers-là deviennent plus nombreux, plus puissants que nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Vehaya, qui t'ikrena milchama, venosav gamhu al soneinu venilchambanu. Il est à craindre que, si jamais on a des ennemis extérieurs qui nous attaquent, eh bien eux, comme une espèce de cinquième colonne, ils vont se joindre à nos ennemis et ils vont faire la guerre contre nous. On sera coincés de l'intérieur et de l'extérieur. Ve'ala mina aretz. Alors là, il dit une drôle de chose. Ve'ala mina aretz, littéralement, et ils quitteront le pays. Allah minare, c'est littéralement, c'est Aliyah, ça veut dire ils vont s'élever comme si Mitzrayim était venu vu comme une terre basse, quoi, un pays bas. Ils sont au niveau de la mer, quoi, finalement, le delta. Et Allah minare, ils vont quitter le pays. Rachidi, qu'est-ce que c'est que ça, Allah minare? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils craignent? Al-Kochenu, d'abord, ils partiront sans un autre corps défendant. Alors certains disent qu'ils voulaient pas, il ne faut pas les laisser partir, ils sont trop puissants. Économiquement, ils font vivre le pays. On ne peut pas se permettre de les chasser. Donc il faut les empêcher. Donc à la limite, il faut qu'on les limite, mais on ne veut pas qu'ils puissent partir. Verabotinu darshu ki adam shemkalel atzmo v'tolek illato b'acherim v'arehu keilu katav v'alinu min haaretz v'hem yirshua. Et nos maîtres ont fait une dracha différente. Il y a des gens, quand ils veulent dire quelque chose de négatif, alors au lieu de le dire sur leur fille, c'est la fille de la voisine. La fille de la voisine qui se conduit mal. Et donc, ce dont ils ont peur, c'est qu'on les chasse. D'accord? Si ça, ils vont s'allier avec nos ennemis de l'extérieur et nous de l'intérieur, on sera perdus, ils vont nous jeter, ils vont nous sortir. Comme ils ne voulaient même pas prononcer ces mots-là, Ve'alinu min haaretz. Alors il a dit Ve'ala min haaretz, comme si ce peuple. Ils vont sortir. Donc il y a deux lectures. Un, on ne veut pas qu'ils partent. Ou alors, c'est nous qui allons devoir partir parce qu'ils vont nous coincer. Donc la première occurrence de la sortie d'Égypte, elle est là. C'est Paro qui l'a dit. Il a dit, Ve'alaminares, ce peuple va sortir d'Égypte. C'est bien sûr un lapsus sur une volonté de ne pas dire quelque chose, mais du coup il fait un lapsus dans lequel il dit que les Bnei Israël vont sortir d'Égypte. Vous avez vu? Alors, l'Amek Davar dit qu'il y a une possibilité de lire que quand nos ennemis nous attaqueront, alors eux, sachant que nous sommes occupés à nous défendre, ben, ils vont prendre toutes les richesses de l'Égypte et ils vont partir. Toutes ces choses-là, elles se sont effectivement passées. Et tout ça, ça a été dit par Paro. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בצבלותם ויבן. Donc ici, quand on parle au pluriel, c'est des Égyptiens, et quand on parle au singulier, c'est le peuple juif. ויבן הרי מסכנות לפרעה ואת פתאום ואת רמסס. Seulement curieusement, וכאשר יענו אותו כן ירבה. Plus on le faisait souffrir le peuple juif, plus il se multipliait. Renifrotz. Et alors, ils sont devenus tellement nombreux et donc ils deviennent plus nombreux, Vechenifrotz. Peretz, c'est faire une brèche, Nifrotz. Bon, ils font une brèche dans la loi du pays. C'est-à-dire ils vont se considérer comme au-dessus de la loi. Ils sont tellement plus nombreux que... D'accord, il y aura partout où ils sont, il y aura des... On appelle ça aujourd'hui des zones de non-droit. D'accord, le droit égyptien ne s'appliquera pas. Alors, Vayakutsu mipnei venei Israël. Katsu bechayem. Katsu bechayem. Ça vous rappelle quelque chose? Quelqu'un qui a dit ça au singulier? Une femme qui a dit ça au singulier? Katsu bechayem. Comment ça se dit en hébreu au singulier? Katsti bechayai. Qui est-ce qui a dit katsti bechayai? Bon, c'est quelqu'un, ça a été dit avant, donc c'est dans le Sefer Bereshit. Qui a dit katsti bechayai? Nous? Qui a bien pu dire une chose pareille? Katsi bechayai, on dit ça quand j'en peux plus, quoi. C'est insupportable. Presque. Non. C'est pas Sarah. Pardon? Et non, c'est pas Rivka. Vous avez... Vous avez raison. C'est Rivka qui a dit Katsi bechayai. Non. Katsi bechayai, elle a dit ça, si Yaakov fait comme Esav et il prend des Cananéennes, alors Katsi bechayai, c'est invivable. Et donc elle va se débrouiller pour que Yaakov soit, que Yitzhak aussi dise à Yaakov de partir chez Laban pour chercher une épouse là-bas. Alors ils disent la même chose Vayakutsu bnei Israël. Et vayakutsu, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire vomir. Le Midrash dit qu'un Égyptien voyait un Juif, c'est un Hébreu, il vomissait, il était dégoûté. Rabotinu darshu que kotsim ayu beneem. Quand ils voyaient les Bnei Israël, c'était comme s'ils avaient des épines dans leurs yeux. Comme donc, si on les piquait dans les yeux. Tellement ils ne pouvaient pas les voir.